France Culture.
Allez, reprenez vos sièges, les midis reprennent. À 13h, on parlera bande dessinée avec Félix Delep et Xavier Dorizon. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Les chaînes MTV, où l'on regardait des clips en boucle depuis le début des années 80, s'arrêteront définitivement le 31 décembre, car nos manières de consommer de la musique ont radicalement changé. Aujourd'hui, les plateformes numériques orientent nos écoutes et les adaptent au cas par cas, ce qui n'est pas sans conséquence sur la création même de la musique, et c'est le dossier du point culture du jour. Paul Vacca, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes essayiste et chroniqueur à Rolling Stone. Vous vous intéressez à notre consommation contemporaine de la musique. Alors, on sait désormais que les chaînes musicales MTV seront supprimées fin décembre. Mm-hmm. Cette disparition signe évidemment la fin d'une époque. Mais qu'est-ce que ces chaînes apportaient à notre découverte musicale ?
Alors, les chaînes comme MTV, c'est-à-dire ce qui est l'emblématique, la chaîne musicale emblématique, ça a bercé toute une époque. Hein, donc, ça a commencé en 80, en fait. Le premier clip, ça a été Video Killed the Radio Star, en fait, hein, des Buggles, qui c'était d'ailleurs le 1er août 81, en fait, hein, le premier clip. Et à partir de là, bah, c'est devenu, avec les années 80, le moteur musical via le support qui était le support emblématique de l'époque, le clip. Et c'est devenu, c'était à l'époque le robinet à clip, ce qui a permis de construire ce qu'on a connu, c'est-à-dire Michael Jackson, une programmation qui était vraiment quasi exclusive de clips à l'époque, hein, faut savoir, et ça fabriquait la pop mondiale, hein, donc les Duran Duran, les Michael Jackson, toutes les grandes stars de l'époque. Donc c'était vraiment un robinet à clip, et ça a donné vraiment un tournant culturel qui a été vraiment celui l'ère du clip avec son esthétique propre et qu'on connaît tous, qui est celle de des montages ultra cut avec évidemment beaucoup de montages, d'images saturées, de choses comme ça, qui ont d'ailleurs même ensuite diffusé une esthétique qui a aussi migré vers le cinéma. Par exemple, on pense à Top Gun ou des films comme Miami Vice de Michael Mann, qui se sont inspirés de cette logique du clip, quoi, en fait, de cette esthétique.
Alors aujourd'hui, on le sait, hein, on se tourne plus vers les plateformes numériques qui personnalisent en fait les offres d'écoute, mais les chaînes musicales, c'était quand même une découverte collective. C'est-à-dire, on ne savait pas ce qui allait venir après. Est-ce que cette perte-là risque aussi de réduire notre curiosité ou même de nous empêcher la surprise ?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est-à-dire que ce que ça signe, alors la mort d'MTV, en fait, c'est une mort lente. En fait, ça signe le changement d'un régime attentionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écoute plus du tout la musique de la même façon. MTV elle-même, pour me dire très vite, a évolué aussi avec le temps. Hein. On a évoqué ça, c'est parti d'un robinet à clip, mais ensuite c'est devenu l'emblème de la culture jeune, plus largement, un peu street aussi, avec tous les courants de mode. C'est devenu un fabricant de non plus de hits musicaux, mais de tribus finalement. C'était devenu un peu des tribus. Ensuite, c'est vrai que c'est passé au reality show, parce que ça s'est adapté aussi au régime attentionnel de l'époque, qui était plus vraiment sur la musique, mais avec l'internet et puis la vie privée, on était plus sur les reality shows. Puis en plus, il y a eu après, on est rentré encore plus loin vers la logique, de la musique, qui était juste une bande son avec des soaps et des reality shows. Donc ça a complètement transformé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre plus directement à la question, on n'écoute plus du tout la musique de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une grille, on avait une programmation, ça s'appelait. Mais aujourd'hui, on est dans des flux. C'est-à-dire, et c'est des flux que l'on choisit, qui sont algorithmiquement distribués suivant ce qu'on écoute. Donc vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Donc on est dans des flux musicaux et non plus dans une distribution linéaire. Par exemple, MTV était une distribution linéaire. On avait des clips, on regardait à la limite ensemble, on mettait ça en fond. Hein, voit ça dans les livres de Bret Easton Ellis. On voit ça, c'était vraiment le compagnon de fond. Et on est aujourd'hui dans du désynchronisé. Et à l'époque, c'était vertical aussi, c'est-à-dire que on pouvait imposer un tube dans une certaine mesure, c'est-à-dire que le matraquage qui était fait de certains titres permettait d'en faire des succès, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une logique qui vient plus du bas, qui est celle justement de la redistribution via l'algorithme, quoi.
Mais est-ce que vous diriez que cette écoute numérique, cette nouvelle écoute, a changé quelque chose dans la création même de la musique ? Est-ce qu'on compose différemment ?
Ah, complètement. Bon, déjà, effectivement, on écoute différemment, c'est-à-dire qu'avant, le morceau était l'unité, l'étalon. Si vous voulez, le single, c'était l'étalon. Aujourd'hui, ça s'est réduit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le hook, c'est-à-dire le crochet. Hein, c'est en fait une musique, faut qu'elle nous accroche tout de suite, parce que sur les plateformes, alors ça c'est au-delà de MTV, sur les plateformes comme, bon, je sais pas si on a le droit de citer, mais Spotify, Deezer et consorts, Apple Music, on écoute et il faut être tout de suite capté parce que c'est au bout de 30 secondes que la musique se déclenche. Donc effectivement, il y a eu aussi un phénomène de composition qui est différente. Comme on écoute différemment, ben, il y a une sorte de darwinisme, en tout cas d'adaptation au nouveau régime attentionnel, ce qui fait que les auteurs aujourd'hui n'écrivent plus des chansons comme à l'époque avec couplets, refrains et ainsi de suite, c'est-à-dire un système ABCD un peu comme ça qui était découpé. Aujourd'hui, ce sont des hooks en fait. Et il y a des musiques des types aujourd'hui, par exemple des titres de Beyoncé où il y a 5 hooks à la suite et c'est pas structuré de façon avec un refrain qui est beaucoup plus collectif.
Mais donc si je vous suis, ce hook, ça veut dire que c'est peut-être la première phrase de la chanson qui doit nous attraper et plus le refrain comme avant ?
Complètement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une progression organique jusqu'au refrain, c'est-à-dire qu'on rentrait doucement dans la chanson, on mettait nos pantoufles et on rentrait jusqu'au refrain, genre « We are the champions, the queen », tac, c'est le climax, quoi. Aujourd'hui, le climax, il est tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite accrocher, et généralement, ce qu'on fait, ben, c'est par exemple Bruno Mars, avec, comme il s'appelle, Mick Ronson dans Uptown Funk, c'est une succession de hooks, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de refrains décelables, ce sont des hooks, c'est-à-dire qu'on vous a accroché au début, mais il faut vous accrocher ensuite, après, il faut vous réaccrocher, et donc en fait, c'est une façon, alors attention, on va dire que ce sont des cyniques qui font ça. Non, c'est simplement que la musique ne répond pas aux mêmes besoins. C'est un besoin qui est beaucoup plus, viscéral et rapide et sensoriel, très rapide. Donc le hook, ça a ça. C'est pour ça que le rap, par exemple, a fonctionné très très fort sur les plateformes, parce que c'est quelque chose de très sensoriel. Alors, attention, juste une petite parenthèse, il ne faut pas réduire ça non plus à que la question du hook. On est aussi dans des playlists où on a des flux très très longs, c'est-à-dire qu'on a aussi des écoutes de flux. La différence, c'est plutôt la liquidité aujourd'hui de l'attention qui fait qu'on part ou par des hooks, c'est-à-dire des crochets qui nous, comme un hameçon qui nous prend, ou alors on se laisse aller dans le flux, un peu comme le binge-watching, mais c'est le binge-listening, on se laisse porter par la plateforme et on part, quoi.
Dernière question rapidement, Paul Vacca, est-ce qu'il n'y a pas un risque alors de standardiser les titres, en fait de créer du générique, parce que j'imagine que tous les auteurs créent du hook?
Ouais, mais moi je crois à la puissance. Alors tout à fait, vous avez raison. Il y a une tendance à, mais le hook, il y a une magie du hook. Ça mériterait même toute une émission sur le hook, parce que en fait, il y a une magie. Ça a beau être 30 secondes, tous les hooks ne marchent pas. On a beau chercher, c'est comme un cri dans le rock. Un cri ne vaut pas un autre. C'est quelque chose de très très fort.
Ah ouais, donc c'est aussi un espace créatif, le hook.
Ah, c'est complètement un espace créatif et c'est extrêmement fort. Et la manière dont on l'agence, c'est-à-dire que maintenant c'est différent. C'est-à-dire que c'est plus organique comme avant. C'est beaucoup plus structuré, presque architecturé, ou même mis en laboratoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chansons. Ben, par exemple, Beyoncé, il y a 25 auteurs-compositeurs, parce que tout le monde amène sa petite pierre. Et donc, après, elle devient chef d'orchestre d'une énorme writing room, en fait. Hein. C'est comme ça que ça se passe pour la musique. Mais c'est un espace, moi, je crois qu'il y a un espace au contraire. Il y a des trucs fascinants, même avec le hook, qu'on voit dans la nouvelle génération. Il y a des choses qui sont fabuleuses, quoi.
Bien, merci beaucoup, Paul Vacca.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les éditions Harlequin vont traduire une partie de leurs livres via l'IA.
Oui, la filiale française de l'éditeur canadien Harlequin a annoncé aux traducteurs de sa collection Azure la fin de leur collaboration. À partir de janvier 2026, Harlequin va se tourner vers un prestataire externe spécialisé dans la traduction automatique grâce à l'intelligence artificielle. L'Association des traducteurs littéraires de France et le collectif En chair et en os ont publié un communiqué pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un plan social invisible. Harlequin France a justifié ce choix par la baisse de ses ventes, tout en assurant que pour l'instant, cela ne concernait que la collection Azure, dédiée à la romance. C'est la première fois qu'une maison d'édition française généralise la traduction par IA.
Et pour finir, Marie, les Oscars seront cette année diffusés uniquement sur YouTube.
Oui, alors qu'ils étaient retransmis en direct par la chaîne de télévision américaine ABC depuis 1976, les Oscars seront visibles exclusivement sur la plateforme YouTube à partir de 2029. L'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma, qui organise depuis 1928 la cérémonie, veut ainsi élargir son audience, notamment à l'étranger. Une décision qui témoigne de deux transformations majeures. D'abord, le déclin de la télévision au profit du numérique. Une étude a ainsi révélé au printemps qu'aux États-Unis, la part de marché des plateformes de streaming avait à présent dépassé celle de la télévision. Et ensuite, la baisse d'audience de ces cérémonies de récompense. L'an dernier, 20 millions de téléspectateurs américains avaient regardé les Oscars contre 55 millions en 1999. Alors en 2026, Marie, la cérémonie se tiendra le 16 mars à Los Angeles.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, et 13h30, pardon, et vous écoutez 13h, je vais y arriver, n'importe quoi. C'est bientôt les vacances, vous écoutez les Midis de Culture.